Secret de Normand. Un podcast by Tendance Ouest.
Pour le cinquième épisode, nous recevons un philosophe, écrivain, fondateur de la revue Front Populaire, mais aussi chroniqueur dans de nombreux médias, bref, une figure du paysage intellectuel français, Michel Onfray, normand depuis 1000 ans, comme il se qualifie lui-même. Pour commencer, quel est votre lieu préféré en Normandie ?
Alors, je vais être très proustien, ça reste quand même mon village natal qui est Chambois, dans l'Orne, où j'ai une maison. Au bord de la Dive, la rivière qui traverse le village, et là j'ai des souvenirs importants, puisque je suis resté là jusqu'à... J'y suis né, enfin, habituellement les gens qui pinaillent disent « Mais non, vous êtes né à la maternité d'Argentan !» Oui, parce que je ne suis pas né dans la maison de mes parents, mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans à Argentan, à Chambois, pardon. Et puis après j'ai vécu à Argentan, 38 ans, avec ma compagne qui est décédée. Et puis depuis qu'elle est décédée, j'ai quitté cet endroit que j'aime toujours autant, mais enfin qui est toujours plein de souffrance pour moi. Donc je vis à Caen, et j'y suis depuis, oui c'est ça, une dizaine d'années. Donc il y a un triangle qui est finalement Chambois, mon lieu de naissance, mon enfance, mon adolescence, Argentan, qui est le lieu de la plupart du temps de ma vie, je dirais, jusqu'à aujourd'hui là. Et puis Caen, où j'ai fait mes études à la fac. J'ai été prof au lycée Saint-Ursule, qui est à 50 mètres à vol d'oiseau, là. Et puis j'y ai créé aussi l'université populaire, qui a duré une quinzaine d'années, jusqu'à ce que le maire de Caen ne la supprime.
Trois raisons pour lesquelles vous aimez la Normandie.
Bon, je vous dis les raisons proustiennes, ce qui fait que les gens qui naissent à Dunkerque trouvent que c'est le plus bel endroit du monde. Mais il y a aussi le fait que les gens y sont quand même d'une grande douceur, d'une grande tendresse, pas beaucoup d'arrogance, pas de prétention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendication identitaire. C'est parfois dommage. Les Bretons font ça très bien, les Corses font ça très bien, les Alsaciens font ça très bien. Vous me direz, il y a une langue aussi, mais que nous n'avons pas, nous, enfin du moins, qui n'a pas la même étendue, la même puissance, et puis ni la même existence non plus. Mais je le sais de gens qui viennent de l'extérieur et qui me le disent un peu plus. Je connais des gens un peu partout, évidemment, qui viennent parfois me voir et qui me disent « Ah, mais c'est incroyable, les gens sont polis, sont gentils, sont doux, sont prévenants, sont... etc. etc. »
Et vous voyez finir votre vie ici, en Normandie ?
Ah ben, j'ai prévu même l'endroit où je serai enterré.
Formidable. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité, si on peut dire, sur cet endroit ?
Oh, si vous voulez, c'est un petit cimetière. C'est pas le cimetière de Chambois, hélas, parce que j'aimerais être près de mon père, mais il y a une espèce de petite zone qui s'est créée là juste à côté avec des pavillons, c'est un peu bruyant, ça sent la saucisse. Enfin, je sais bien que quand on est mort, on respire pas les effluves de saucisse. Mais il y a un tout petit cimetière à Fel, juste à côté, qui est en déshérence un peu, je dirais. Et j'ai prévenu le maire de Fel que je souhaiterais être là pour entendre les cloches de Chambois.
Et il a accepté ?
Oui, bien sûr, oui.
Et je me permets cette question, mais vous évoquez votre mort avec une certaine simplicité, un certain presque détachement. Est-ce que ça vous fait peur de mourir ?
Non, ça fait partie des choses de la nature. Mes parents ont dû bien faire les choses, parce qu'ils ne m'ont pas transmis de stress sur ce terrain-là. Ce qui est insupportable, c'est le vieillissement. Ce qui est insupportable, c'est la maladie, c'est la déchéance physique. Enfin, ce sont ces choses-là, c'est pas de disparaître un jour. Il y a un moment donné où on a perdu tous ses amis, on a perdu toutes ses illusions, on a perdu sa santé, on a perdu ses espoirs. Et c'est l'heure de partir. Donc moi j'aime bien la nature, j'aime bien Chambois parce que dans mon jardin je vois les saisons passer. Et il y a des saisons aux hommes et aux femmes. Et donc il y a un moment donné où il faut savoir qu'on est soit en automne, soit en hiver, mais qu'on n'est plus au printemps.
C'est les stoïciens, je crois, qui disent « philosopher, c'est apprendre à mourir ».
Oui, c'est une grande leçon de la sagesse romaine qui m'a formé, moi. Et c'est vraiment une sagesse que j'essaie de pratiquer. Et si à 65 ans, on n'a rien fait de Marc Aurèle, de Sénèque, de Cicéron, d'Épictète, de tous ces philosophes-là, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose. Enfin, vous voyez, il y a des livres partout chez moi. Si ces livres-là n'ont pas produit un peu de sagesse, alors il aurait mieux valu que je sois, je sais pas quoi, champion de pétanque ou joueur de pétanque, sans être forcément champion.
Quelle est pour vous la meilleure chose que votre profession vous ait permis de réaliser ?
Disons, vivre de ma plume, ça c'est quand même extraordinaire. Et l'idée aujourd'hui de me lever à mon heure, de me coucher à mon heure, et de savoir que quand j'écris des livres, ils sont achetés par des lecteurs qui me permettent de vivre, ça pour le coup c'est une bénédiction.
Une chose que vous regrettez dans votre vie ?
J'ai essayé de construire ma vie pour n'avoir pas à la regretter. Et pour ne pas avoir à me dire « Ah ça, j'aurais dû le faire comme ceci, ou j'aurais dû le faire comme cela, je... »
Et est-ce que vous vous arrêtez sur les regrets? Ou alors pour vous, ils sont nécessaires? Est-ce que pour vous, les échecs sont nécessaires pour avancer?
Oui, oui, bien sûr. Les échecs,
enfin, c'est, je pense, une porte ouverte. Mais...
Non. Vous avez des gens qui vous diront qu'ils n'ont pas eu d'échecs. Donc, moi, il y a eu des échecs dans ma vie. Je regrette pas en me disant, oh, j'aurais pas dû me lancer là-dedans, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire confiance à celui-ci, j'aurais pas dû croire à telle personne qui m'a trahi, ou etc. Non, c'est la vie. C'est la vie et il n'y a rien à regretter, vraiment, je crois. Ni rien à célébrer non plus, je dirais pas. Je suis pas dans l'extravagance de moi-même et je suis pas non plus dans une espèce d'extravagance de moi-même dans la négativité en me disant ça t'aurais jamais dû, ça c'est vraiment une erreur, ça je sais pas quoi. Non, j'ai eu des chances, de rencontrer des gens et le talent ne suffit pas, hélas, dans un monde comme ça. Faut faire des rencontres.
Oui, mais vous avez aussi une culture immense, vous avez un très grand savoir. C'est quelque chose qui tombe pas du ciel. Vous avez quand même cultivé toute cette culture, tout ce savoir.
Oui, mais j'ai pu le faire parce que. Bah d'abord parce que j'ai construit ma vie pour ça. J'ai pas fait d'enfants, j'ai pas fait de famille, parce que, je vous disais tout à l'heure, pas de vacances, pas de week-end, et ma compagne qui est décédée a accepté ça pendant 38 ans. Non, c'est une aventure collective. Je peux pas dire je le dois à mon talent. Non, je le dois beaucoup aux rencontres que j'ai pu faire.
Et vous croyez au hasard ?
Ah oui. Ah oui, ça effectivement, je crois que c'est... Les dés sont jetés comme ça.
Et... Au hasard pur et dur ?
Oui. Des fois, je doute. Des fois, je doute en me disant, mais c'est pas possible que... Par exemple, quand je me relis, des fois, j'écris des chapitres, je construis un livre, et puis là, c'est ce que j'étais en train de faire quand vous êtes arrivé, c'est ce que je vais refaire tout de suite, là, quand on se quittera, et des fois, je me lis comme un étranger. Je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Je suis bien sûr que c'est moi, parce que voilà, c'est moi, c'est mon ordinateur, c'est mon travail, c'est mon style, etc. Et je me dis, mais j'ai quand même de la chance, quoi, pour que ça vienne comme ça. Je corrige rien. Je sais pas, c'est pourquoi j'ai pu publier 150 livres. Donc je crois que quelque chose rend possible. Vous allez me dire quelque chose, c'est Dieu.
Je vous dis rien.
Non, mais, quelque chose rend possible le fait qu'on puisse se mettre à son bureau. Et puis voilà, on a fait un livre, deux livres, 10 livres, 150 livres, et que ces livres-là trouvent des éditeurs.
Un rêve que vous n'avez pas encore réalisé?
Eh ben, j'ai quand même une vie qui me permet de réaliser mes rêves, mais j'ai pas forcément encore trouvé le temps. Ce serait deux voyages, et pourtant j'ai beaucoup voyagé, je suis allé vraiment sur les 5 continents, y compris pour faire des conférences. Mais j'aimerais bien voir l'Islande, et j'aimerais bien voir la Chine. Alors je peux pas dire que ce sont des rêves, parce que là j'ai les moyens, si je veux, tout de suite de dire, bon, le mois prochain, je pars 15 jours en Chine, et puis je prends un billet d'avion, puis voilà. Ça fait partie des projets que j'ai et que je ne trouve pas le temps de réaliser. Mais d'une certaine manière, j'ai une vie heureuse, parce que j'ai pu réaliser vraiment tout ce que j'ai souhaité réaliser, très au-delà.
Et vous êtes heureux dans votre vie aujourd'hui ?
On est heureux dans la mesure où on peut l'être. C'est-à-dire que j'ai perdu Marie-Claude, j'ai perdu mon père que j'aimais beaucoup. Il y a cette absence qui est là, toujours, tout le temps. Et puis, il y a cette idée que soi-même, on s'en va vers eux. Et qu'on se dit, j'ai mon âge, j'ai eu des problèmes de santé, AVC, infarctus et autres. Et on se dit, il ne me reste pas grand temps. Donc, il faut composer avec ça aussi. Alors, je suis heureux autant qu'on peut l'être, oui.
Une personne vivante ou morte que vous admirez, et pourquoi ?
Bon, le général de Gaulle, pour une personne morte. Je l'admire parce qu'il a aimé la France, qu'il l'a sauvée au moins deux fois, qu'il a été digne et grand, qu'il a été droit, qu'il a été austère et rigoureux. Dès qu'on cherche un peu dans sa vie, qu'on découvre des correspondances, ou qu'on lit des choses sur lui, ou qu'on apprend des choses sur lui, c'est toujours formidable, c'est toujours un homme formidable. Je pourrais ajouter Camus, qui est dans le même état d'esprit. J'ai sa correspondance complète, enfin toutes les correspondances qui ont été publiées de lui, je les ai lues, et toutes les biographies, je les ai lues, et là vous avez un personnage impeccable.
Et est-ce que vous adhérez à la pensée de Camus ?
Ah oui, j'ai fait un très gros livre qui s'appelle L'Ordre Libertaire, pour dire qu'effectivement c'était pour moi un modèle, oui.
Le plus grand combat de votre vie, que ce soit idéologique, politique...
Il est à venir, et ce sera contre la mort. Enfin, sauf si elle me prend dans mon lit et que je me réveille pas. Mais c'est le seul vrai combat.
Et vous préféreriez qu'elle vienne dans votre lit ou avoir à l'affronter
Non, moi je suis pas masochiste. À l'idée de dire vous allez avoir un cancer du pancréas et dans 3 mois vous allez mourir et vous allez pouvoir regarder la mort en face. Si vraiment j'ai le choix entre ça et de ne pas me réveiller un matin, j'ai pas besoin de cet héroïsme-là. J'ai hélas trop vu ce que c'était que l'agonie. Ce que c'était que l'immense souffrance d'un cancer et d'une phase terminale, On ne peut souhaiter ça à personne. Et les gens qui disent « moi, je veux voir la mort en face, je voudrais bien les y voir ». Je pense que quand la mort est là, on ne dit plus très exactement la même chose que ce qu'on en disait quand on était vivant et en bonne santé. Je l'ai hélas vu. Je l'ai hélas moi-même expérimenté. J'ai pas vu, quand la mort de Marie-Claude est arrivée, il y a plein de choses que j'ai pas vues parce que mon intelligence s'est mise en silence et que la dénégation a pris le dessus. Donc non, le mieux, c'est de disparaître plutôt, et pas d'un seul coup, quoi, et pas d'être une loque. C'est la même chose, c'est-à-dire que j'ai déjà des petits bouts un peu morts en moi, un petit bout de cœur, un petit bout de cerveau. Donc on se dit, je préfère partir d'un bloc.
Question, je connaissais un peu la réponse, mais croyez-vous en Dieu?
Non.
Mais c'est étonnant chez vous, ce questionnement. En quoi presque est-ce que ça fait partie de vous, cet athéisme?
Écoutez, il y a quelque temps, je me disais, mais finalement, le fil conducteur de la totalité de mon travail, de tous mes livres, c'est la démystification. En fait, on me dit, mais vous avez écrit sur tout, vous avez écrit des poésies, vous avez écrit une pièce de théâtre, vous avez écrit sur l'art, vous avez écrit sur la politique, sur la littérature, vous avez écrit sur l'histoire de la philosophie, etc. etc. Et je me disais, oui, c'est vrai, mais quelle est la ligne directrice. En fait, c'est la démystification. Et ce qui m'intéresse dans la démythologisation, c'est la restitution ou l'instauration ou l'institution de la vérité. Mais mon athéisme, c'est pas du tout l'athéisme de Sade qui a besoin d'insulter Dieu. Je n'aime pas ça. J'ai pas envie de violer la Sainte Vierge, je trouve ça abominable. Alors qu'il y a que ça chez Sade, cette espèce d'insulte perpétuelle à l'endroit de la religion, de l'histoire sainte. Mais c'est de me dire comment est-ce que ça s'est constitué. Comment ça marche, ça? Comment ça surgit, Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, etc., etc. Et quand je suis petit garçon, je sais pas, j'ai une douzaine d'années, que je suis à l'église et que je vois le Christ en croix et que j'écoute le sermon du dimanche, je me dis, mais la résurrection de Lazare, il n'est pas mort, quoi. Il n'est pas mort au sens médical du terme. Il n'est pas ressuscité au sens médical du terme. J'ai la prescience que tout ça est symbolique. Et les francs-maçons disent, je ne suis pas franc-maçon, mais on entre en maçonnerie et on meurt à sa vie profane pour devenir, pour renaître à la maçonnerie. Et je pense que c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est une parole qui fait que, quand elle a la parole de Jésus, quand elle arrive, elle nous prend là où nous sommes et où nous sommes morts, et elle nous donne la vie, ou elle nous rend la vie, ou elle nous donne une vie éternelle. Et là, pour le coup, je me suis dit, mais il y a toute une symbolique, il faut travailler à la symbolique, etc. Et j'ai fait une théorie de Jésus qui est une analyse de la biographie de cet homme à partir de l'Ancien Testament, en disant, voilà comment ça se structure et comment ça se construit. Donc, sur Jésus, sur le christianisme, sur la psychanalyse, mais aussi sur des auteurs présentés comme des valeurs sûres, Sade, que je déteste, par exemple. J'ai fait un livre aussi. Donc, tout mon travail, c'est ça. C'est d'essayer de dire, tirer le rideau et regarder le réel tel qu'il est véritablement. Donc le problème, c'est pas que Dieu n'existe pas, c'est qu'on l'a construit comme ça, et pour quelle raison? C'est tout le travail philosophique.
Écoutez, ressentez, découvrez. C'est le podcast Secret de Normand avec Alix Cagnard.
On va revenir à des considérations plus légères. Quelle est la qualité que vous préféreriez qu'on dise de vous, ou au contraire le pire défaut qu'on pourrait vous attribuer?
La plus belle chose qu'on pourrait dire de moi, c'est que c'était quelqu'un de bien, je sais pas, pareil, oui, une formule aussi simple que ça. Et le pire, enfin, ce qu'on pourrait me reprocher, c'est probablement d'avoir été psychorigide, de ne pas avoir su composer, de ne pas avoir été parfois plus souple que j'aurais pu l'être, je pense.
Dans quel domaine vous pensez?
Bon, un peu tout. Dans la relation à autrui, dans la relation à soi-même, dans la relation aux idées aussi, dans le jugement sur le monde, peut-être aussi, tout ça, quoi. La psychorigidité, c'est... Enfin, j'en sais rien. Après tout, c'est... Il y a parfois, on se reconnaît des défauts, et ce sont des défauts qui sont presque des qualités. Donc, c'est aux autres de dire, en fait, ce que sont nos défauts. On n'est pas les mieux placés pour ça.
Et là, je me permets de nuancer, c'est le pire défaut qu'on pourrait vous attribuer. C'est-à-dire le défaut que vous n'aimeriez que jamais...
Ah oui. Ah,
on
oui.
On pose sur
vous. Ah, pardon, je n'avais pas compris la question. Et ben, la déloyauté.
Quel est votre plat préféré?
J'ai pas de plat préféré, j'ai un plat qui me fait plaisir, voilà, et ils sont nombreux à me faire plaisir. Je suis pas un monomaniaque en disant je suis un monomaniaque du pot-au-feu, par exemple.
Ouais, donc là-dessus, vous n'êtes pas psychorigide.
Ah non, ça non, non.
Votre livre préféré?
Disons de la nature des choses de Lucrèce.
Votre film préféré?
Peut-être Zéro de conduite de Jean Vigo.
Quel est, donc on revient là encore à quelque chose de léger, quel est votre juron préféré?
Juron?
Ouais.
Je ne suis pas très juron, je ne suis pas très grossier. Enfin, mon père m'avait appris ça et j'ai gardé ça. Et je reste un peu classique, quoi. J'ai entre con et merde, ça va guère au-delà, quoi. Non.
Et votre plus grande peur ?
Peur ?
Ouais. On passe du coq à l'âne, hein, c'est vrai.
D'être aveugle.
Et ouais, pourquoi ?
Ça veut dire ne plus lire, écrire, je ne sais pas comment on peut, enfin peut-être probablement on peut, j'en sais rien, mais ne plus lire, ne plus écrire, ne plus voir le monde, ne plus voir de peinture, ne plus regarder de films, de cinéma, et puis devoir dépendre de quelqu'un pour me déplacer, aller et venir, là je fais mes courses, je vais, je viens, je remonte, et je fais ma cuisine, etc. Vous ne pouvez plus cuisiner, vous ne pouvez plus aller faire vos courses, enfin, c'est une espèce d'assignation à la nuit perpétuelle, et ça c'est terrible. Je pense que je suis au 5e étage, je pourrais sauter par la fenêtre là.
Oui, pour finir, une de vos gaffes inavouables.
Oh si, elle était là, enfin elle est facile à avouer, mais... Le premier cours de philo que j'ai fait, j'étais prof à Jeanne d'Arc à Caen, et j'essayais de rendre un peu mes cours vivants et intéresser mes élèves aux cours. Et là, en début d'année, je leur disais, voilà, il y a un programme, il va falloir faire une dissertation, il va falloir faire un commentaire de texte, vous aurez des auteurs au programme et vous aurez des notions au programme. Et pour les auteurs, j'ai raconté des trucs, qui était Platon, ce qu'il faisait, quand il a rencontré Socrate, quel genre de livre, enfin je tenais de la chair un peu aux philosophes dont je parlais. Et il y a un moment donné, pour présenter Tocqueville, qui est un auteur, un philosophe de la Manche, et je dis, s'il y a parmi vous des manchots, il y a Tocqueville par exemple, et j'avais un élève qui avait perdu un bras. Et quand j'étais en train d'écrire Tocqueville, je me suis dit, oh là 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 là, j'ai un élève manchot, mais pas comme il le faudrait. Et là, il y a des minutes qui paraissent assez longues, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et je me suis retourné, pas un sarcasme, pas de gens gênés, pas de rien, quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se passerait comme ça. Et j'ai béni la classe de ne pas créer un chahut, quoi.
Pour finir, je vous laisse le mot de la fin. Un seul mot. Et pourquoi ?
Bah, je dirais vie. In fine, il n'y a que la vie. Et que tout est vraiment construit là-dessus. Que faire de sa vie ? Donner la vie, pas donner la vie, perdre la vie, voir la vie se défaire, la vie des autres, la vie des plantes, la vie des planètes, la vie de tout ce qui est vivant, c'est-à-dire le vivant dans le vivant. Enfin, je pense que le Zoé, disaient les Grecs, pour nommer ça, cette puissance qu'est la vie, c'est ce qui fait tout ce qui est. Donc, pour moi, il n'y a que la vie.
Secret de Normand, le podcast intimiste by Tendance Ouest.